Europe 1.
Europe 1, 10h-11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, bonjour
Yves Tréhard.
Yves, et bonjour Justine.
Bonjour Catherine.
Bonjour à tous.
Oui, à tous, c'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques avec Catherine Ney, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Capucine Patouillet. Et avec nous aujourd'hui, pour l'avant-dernière émission de l'année, Yves Tréhard, éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, grand esprit, grande gueule, qui va pouvoir commenter l'actualité. Beaucoup les retraites, mais pas que, et peut-être d'un point de vue un peu original. Mais pour commencer, il y a eu encore une démission ministérielle, quand le loup explique.
Allez, on reçoit maintenant celui qui a été contraint de démissionner du gouvernement après avoir oublié de rendre public ses 13 mandats, et peut-être 15 même. Jean-Paul Delevoye, bonjour. Jean-Paul Delevoye ? Mais il est où alors ? Ah, Jean-Paul Delevoye.
Pardon. Oui, pardon. Excusez-moi.
Ah, il est là. Bonjour.
Oui, non, pardon. Demandez-moi, j'avais oublié votre interview. Oui, du coup, je n'avais pas. Autant d'être transparent avec vous. Je n'avais pas commandé de taxi. Et là, du coup, j'ai commandé un taxi derrière. Mais il n'y a pas de taxi. Parce que j'avais oublié que c'était la grève.
Oh là là, ça va, oui.
Je sais que vous allez me parler des 28 mandats. J'ai fauté, mais la situation est désormais clarifiée.
Mais comment ça, 28 mandats, c'est pas 13 ?
Pourquoi je vous ai dit...
Vous avez dit 13.
J'ai dit 13.
Ah oui, oui.
Ah bah écoutez, j'ai dû oublier alors. Ah bah...
C'est ça. Alors le journal Marianne parle d'un 14e mandat à 6 000 euros par mois. Non, c'est beaucoup. Ah oui. Président du Conseil économique, social et environnemental.
Non, mais là, c'est pas une plaisanterie. Vous êtes sûr de ce chiffre? Mais heureusement que vous avez vérifié parce que je ne m'en souvenais plus. Ah ouais. Bon, écoutez, celui-là, je ne vais pas démissionner. Je pense que l'heure qu'il est aujourd'hui, ça ne sert plus à rien.
Attendez. Vous aviez dit que vous rembourseriez les sommes perçues d'autres organismes pendant que vous étiez au gouvernement. Vous allez le faire?
Ah bon, j'ai dit ça.
Bah oui, vous avez dit ça, ouais.
C'est fou ça, parce que j'ai aucune mémoire sur ce genre de sujet. Non, mais écoutez, attends, est-ce bien utile? J'ai démissionné du gouvernement, ça ne sert plus à rien. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de rembourser aujourd'hui?
Bah écoutez, non. Ouais.
Sinon, une petite question. Mon passage ici sur Europe 1, y a un jeton, c'est rémunéré,
Non.
Non, écoutez, c'est l'histoire d'être honnête. Je ne voudrais pas avoir d'emmerde derrière. Vous savez, j'ai mon petit quota respecté. Oh oui.
Et voilà, c'était donc Nicolas Canteloup achevant Jean-Paul Delevoye mardi sur Europe 1. Alors, je vais vous raconter une petite confidence parce que, comme elle est pas du tout à notre détriment, mais au contraire, il ne faudrait pas s'en priver. Comme vous le savez, j'espère, ou comme vous l'apprenez sinon, Europe 1 m'a demandé de faire une série podcast qu'on peut écouter sur tous les Apple machins et trucs, sur une histoire des démissions ministérielles. Et puis tout était bouclé, terminé. Et dimanche, j'ai envoyé un mail à Capucine Patouillet, qui travaille pour l'émission, mais qui travaillait aussi là-dessus, en lui disant, tant pis si tout est en boîte, il faudrait faire deux raccords parce qu'on va faire deux raccords avec démission Delevoye. Je suis d'accord, il n'a pas démissionné, mais forcément, il va démissionner. Et puis, le lundi matin, on a fait les deux raccords. Et puis, j'ai écouté une chronique de quelqu'un qui n'a pas eu la même chance que nous.
Doit-il quitter le gouvernement ? Non, il va quitter le gouvernement, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'il a été sauvé par Philippe Martinez. Philippe Martinez qui, la semaine dernière, faisait l'éloge de l'homme de dialogue qui était Delevoye et qui, là, a tourné casaque qui réclame sa démission. Or, évidemment, en pleine crise, quand l'adversaire réclame le scalp du ministre, on ne lui donne pas. Donc, paradoxalement, Martinez, qui veut garder Delevoye comme interlocuteur, lui a sauvé la mise. Delevoye partira, mais il partira quand le texte sera terminé, ficelé et transmis au Conseil des ministres.
Bon, et ça, c'était sur BFM lundi matin. Bon, alors, on aime beaucoup Christophe Barbier, on l'a invité ici, il a un talent fou, un immense talent d'acteur et tout, mais quand même, nous asséner que, évidemment, il ne démissionnera pas, peut-être que parfois, il faut être un petit peu plus prudent. Nous, on ne l'avait pas dit, et vous passez la série avec démission de Delevoye, même s'il n'a pas démissionné, vous voyez, on attendait. Et il se trouve que ça s'est passé très vite et que Du coup, la série est disponible. Catherine, ça vous inspire quoi? Vous
écoutez, qui êtes... Non, mais juste ce point précis. Quand on parle tous les matins, oui. Tôt, de bonheur, qu'est-ce que vous voulez? On peut quelquefois faire une petite erreur d'appréciation, mais il avait dit il démissionnera bientôt, mais pas tout de suite.
Voilà. Non, non, Martinez va sauver la mise, pas avant le Conseil des ministres. Vous, vous en avez fait dans votre carrière des blagues, des erreurs de ce type, ou vous gardez bien toute prévision pour pas en...
Je m'en souviens plus, je fais comme Delvoye, j'ai perdu, je sais plus.
je ne sais plus. Excellent, Catherine. Et vous, ça vous est arrivé?
Oui, ça va sans doute m'arriver, et ça va peut-être encore m'arriver. Par exemple, si vous m'interrogez sur le conflit social aujourd'hui, je suis plutôt assez optimiste pour une voie de sortie... que je vois se dessiner, mais...
Ça va.
Oui,
maintenant,
mais...
si vous nous disiez...
C'est
et
différent.
Là, le mouvement va s'achever pendant les vacances,
ah bah
et
non,
en janvier,
non.
Il n'y aurait plus rien.
Ça. Je dirais jamais ça.
Ah voilà, c'est mais pour ça qu'il faut quand même être prudent.
Ça a dû m'arriver, j'ai dû faire des annonces qui se sont infirmées ou qui n'ont pas été confirmées, plutôt.
Mais vous n'avez pas annoncé ni l'un ni l'autre, par exemple, que Chaban serait élu président de la République ou que Juppé, c'était sûr, allait gagner ou des choses comme
non,
ça.
Non, ça, j'ai pas fait.
Non, parce que ça, c'est une erreur de jugement grossière.
D'accord. Non,
mais ça fait partie des risques du métier.
Oui.
Mais oui.
Et c'est ça qui fait d'ailleurs le sel de ce métier.
Oui.
C'est qu'il faut prendre des risques, sinon ben, on n'a rien à dire et on dit rien.
Oui, mais moi, je trouve que... La prévision en politique, c'est pas la peine de... On n'est pas vraiment là pour ça.
Non, bien on est là pour analyser, décortiquer.
On est là pour essayer de comprendre et donner les facteurs qui vont faire que...
Mais... On n'est pas Madame Irma.
Mais ce qui est très étonnant dans des processus comme celui-là, c'est que pendant un premier temps, il est vrai là assez court, mais quand même pendant un premier temps, le pouvoir le défend. Le pouvoir le défend, il est de bonne foi, il est de bonne foi. Or,
mais c'est comme toujours ça dans les cas de, similaires. Quoi.
Mais c'est idiot, Catherine, si vous me permettez. On sait, nous. Alors franchement, je n'ai pas affirmé à l'antenne que Delvoye va démissionner comme ça parce que je n'aime pas prendre ce genre de risque inutile. Mais entre amis, je pariais 3 caisses contre une bouteille qu'il allait démissionner.
Non, mais là,
et
là,
le
là,
pouvoir le sait aussi bien que moi.
Christophe a pris un gros risque parce que ça s'est noué ce week-end. Quand on a appris la rémunération qui était importante, et qu'on savait qu'elle était contraire justement aux règles constitutionnelles, c'était plus tenable. Ils ne pouvaient plus le maintenir.
Mais ça, Macron et Philippe le savent.
Bien sûr, c'est pour ça qu'ils l'ont débranché dès le lundi.
Oui, mais pourquoi les 24 heures de soutien?
Ah non, le soutien à prononcer des autres membres du gouvernement, de non, Philippe, mais... c'était avant qu'on connaisse le montant de la rémunération. Sauf que ce qu'a révélé l'affaire, c'est que Matignon connaissait le montant de la rémunération et a tenté de cacher cette rémunération pendant le week-end.
Pardon, puis, qu'est-ce que vous dites?
Matignon connaissait le montant de cette rémunération.
Non, Matignon n'a jamais... Alors moi, je suis désolé, mais pour le coup, c'est un sujet sur lequel j'ai enquêté, ce qui m'arrive rarement. Matignon n'a rien essayé de cacher. Oui, oui, mais je ne suis pas journaliste.
Non, mais je dis...
Oui, c'est vrai.
Il connaissait le montant, Olivier. Hein, il connaissait Matignon, le montant de la rémunération.
Non, Matignon, depuis le début, l'avait alerté, il lui avait dit... il lui a fait signer les papiers et tout, et lui, il a caché le fait que ça continuait. Il a caché le fait que ça continuait. Oui, voilà. Et bon, alors, on ne va pas insister outre mesure là-dessus.
Parlons de l'homme.
Catherine aime beaucoup parler de l'homme. Dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, on vous retrouve, Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Et aujourd'hui, vous recevez l'éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréhard.
Et nous parlions de Jean-Paul Delvoye qui a été obligé de démissionner donc lundi. Et Catherine Ney, il y a quelques minutes, nous disait « Mais parlons de l'homme ». Et là, sur l'homme, j'ai 2 questions. La première, amusante et sérieuse. Et la seconde, pas du tout amusante, mais sérieuse aussi. Alors, je commence par l'amusante et sérieuse. Beaucoup de gens disent et répètent dans le microcosme de longue date, et évidemment encore plus aujourd'hui, que Jean-Paul Delevoye était complètement idiot et très bête. Et quelle était la formule qui avait été utilisée par Jacques Chirac, je
crois ? Un grand con.
Ah oui, ou une valise sans poignée.
Une valise sans poignée, qui était sa formule favorite.
Con comme une valise sans poignée, ce qui, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'expression, peut être très utile quand vous voulez vraiment flinguer quelqu'un. Bref, et moi je ne comprends pas qu'on puisse dire, soit qu'on puisse dire de quelqu'un qu'il est con comme une valise sans poignée, et qu'il réussisse une carrière politique éblouissante, avec un nombre de fonctions incroyables, ministre, président du CSE, l'homme des retraites, etc.
L'Association des maires de France,
voilà.
Tout ça. Ouais.
Soit, ce qui est ma thèse à moi, qu'il y a des zones d'intelligence politique qui n'ont absolument rien à voir avec l'intelligence abstraite, mathématique, logique, absolument, et d'autres, et que donc quelqu'un peut être très très intelligent sur certaines formes d'intelligence philosophique, mathématique, etc., et politiquement complètement con, ne pas avoir l'intelligence
politique.
Tout le
monde a sa forme de bêtise.
Et vice-versa.
Vous pensez à qui, là ?
Donc, de le voir... Non, je pense à quelqu'un qui a une intelligence abstraite plus que l'intelligence politique, bien qu'il ait réussi à être président, c'est Giscard. Giscard n'avait aucune intelligence humaine.
Je pensais que vous parliez de Cédric Villani.
Je ne m'immisce pas dans la campagne, à la différence d'Yves Tréhard, je ne prends pas toute occasion pour flinguer un candidat.
Alors, revenons à notre sujet.
Alors, il était quand même forcément... pour part intelligent, pour avoir réussi comme
écoutez,
ça.
C'est lui qui, en 2003, a fait la réforme des retraites, de l'alignement, la cotisation du public sur le privé. Ouais. Il la faisait avec François Fillon, qui était ministre des Affaires sociales. Lui, il était ministre de la fonction publique. Et il a fait un travail énorme. D'ailleurs, Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, l'avait qualifié de courageux, l'honnête homme par excellence. Et c'est vrai qu'il a une qualité, c'est-à-dire que c'est une sorte de tracteur, vous voyez, qui avance comme ça, il ne vous emporte pas par un langage comme ça, c'est pas... Bon, il parle longuement, un peu trop, vous voyez, il lui faut un quart d'heure pour dire « passez-moi le sel », mais il connaît son sujet.
Oui, mais vous voyez...
Moi, je dirais qu'il a une sorte de logorée de franc-maçon, c'est-à-dire qu'il dit... des choses simples dans un langage compliqué et ça fait assez chic. Et lui, il aime parler, il parle longuement, mais il a fait ce travail. Et c'est François Fillon qui en a tiré, qui séparait des plumes du pan. C'est pas lui qui a fait le travail. Lui qui a fait le travail.
Puisque vous parlez d'un tracteur, je vais essayer de continuer dans une image à la Catherine Ney. Oui. Et je pense que là, pour labourer un champ, il vaut mieux un tracteur qu'une Ferrari.
On est d'accord.
Et il avait besoin de... À mon avis, Macron et le gouvernement actuel avaient besoin de lui pour occuper le terrain. Parce que l'art, le grand art, moi je l'ai beaucoup fréquenté dans des assemblées, dans des conférences, des congrès où il est là. Et il a un grand art, c'est de ne parler pour ne rien dire.
Mais longtemps.
Et longtemps. Et ça, c'était très important pour la réforme
des retraites. Un quart d'heure pour dire « passez-moi le sel hein ». Voilà,
alors,
c'est ça.
Alors, évidemment, c'est difficile de...
Nouvel aphorisme de Catherine Ney, un quart d'heure pour dire « passez-moi le sel ».
Critiquer quelqu'un comme ça qui est dans une situation compliquée, mais c'est un talent.
Ah oui.
Et pour faire cette réforme des retraites, qui était très embarrassante dans sa présentation par le président de la République, parce qu'il ne savait pas trop par quel bout la présenter, ça a quand même duré 2 ans et demi, cette histoire. Hein, parce qu'il est en charge du dossier quasiment depuis l'arrivée de Macron... à l'Élysée, il fallait quelqu'un qui save, comment dire, en radio, savonner, vous savez, qui savonne, c'est-à-dire qui répète tout le temps la même chose.
Qui anesthésie, moi je dirais plutôt.
Non mais vous voyez, c'est consternant pour la politique quand même ce qu'on entend, parce qu'entre Catherine et Yves Tréhard, il vous explique que pour être utile, il faut savonner, il faut anesthésier, il faut parler pour ne rien dire, il faut occuper le terrain,
il faut
parler 2 heures pour dire « passe-moi le sel ».
Olivier, non, mais la politique, c'est aussi chacun dans son rôle. Et lui, il avait ce rôle-là d'occuper le terrain pendant que d'autres...
Surtout face à des syndicats dont on connaît chacun les spécificités, c'est très dur.
Et il les connaissait. Il connaissait parfaitement le terrain social.
Ouais.
Il connaît parfaitement le terrain social et il savait exactement quel discours tenir à chaque interlocuteur. Et donc, je pense qu'il était d'une grande utilité pour ça, au gouvernement.
Alors, j'en arrive à ma deuxième question, plutôt la seconde d'ailleurs, parce que je vous rassure, il n'y aura pas de troisième. Mmh. Et qui est... je vous la pose dans quelques instants.
Comme chaque samedi, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney qui reçoivent ce matin Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro.
Et alors Yves Tréhard, vous avez peut-être oublié parce que c'était il y a 2 minutes, mais j'ai une seconde question. Comment est-ce que vous expliquez qu'un homme politique aussi au fait du monde politique et médiapolitique actuel commette les incroyables erreurs commises par M. Delevoye, je le prends là non plus lui personnellement, mais comme prototype, parce qu'on pourrait dire la même chose d'autres avant lui, c'est-à-dire ne comprennent pas qu'aujourd'hui, lorsque vous devenez ministre, pour ce que vous contrôlez, c'est-à-dire la situation actuelle, vous devez être irréprochable, et j'ajoute, et si vous ne l'avez pas été, vous refusez de devenir ministre. Comment vous expliquez cet aveuglement ?
Ce qui est catastrophique, c'est qu'à chaque fois, on se pose la question. À chaque fois, on se dit... la législation ou la norme, les normes changent à chaque fois qu'il y a un petit scandale de cet ordre, parfois des gros scandales. Eh bien, et en plus, dans une ère, je dirais, médiatique extrêmement agressive, percutante, où l'exigence de transparence est toujours plus grande, eh bien, ils arrivent toujours, d'une certaine façon, à vous dribbler. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'absence de conscience. De conscience, je dirais, professionnelle, de conscience politique que ces hommes ou ces femmes, puisque ça peut être une femme parfois, eh bien, on. Et moi, ça m'étonne toujours. C'est tellement gros. C'est d'autant plus important pour Jean-Paul Delevoye que c'est que Jean-Paul Delevoye, il y a quelques années, a écrit un livre, on l'a un peu oublié, qui n'avait pas eu beaucoup de succès à l'époque, justement, qui soulignait la fracture entre ce qu'on appelle bêtement aujourd'hui entre le peuple et les élites. Et cette fracture, disait-il, était due en partie au comportement inconscient et un peu léger du personnel politique. Et bien, lui-même ne s'est pas appliqué l'observation qu'il faisait sur le reste du personnel politique.
Catherine, donc, ça vous étonne, ça, vous?
Dieu sait s'il en a fait des discours sur la transparence et l'utilité de la transparence, même l'exigence de transparence. Il a rajouté des couches dans tous ses discours, morales, dans tous ses discours au Conseil économique et social. Donc on se disait, l'honnête homme, quoi, l'honnête homme. Et puis, ça vérifie une thèse, c'est qu'en général, ceux qui font la morale, et on peut voir les cas précédents, ce sont toujours
les plus mal placés.
Les plus mal placés, ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et plus on parle pour les autres, plus on fait la leçon aux autres, moins pour soi, on est vigilant. Bon, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que, alors là, d'après un rapport qui est secret, déjà au Conseil économique et social, il paraît que il utilisait des voitures peut-être plus qu'il ne le faudrait, qu'il avait un train de vie. Donc, on suspectait déjà des petits déraillements, des petits arrangements.
Des petits micro-abus, on pourrait dire.
Des petits micro-abus. Mmh. Et là, voilà. Et donc, là, qu'il est oublié. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il mette ses oublis sur le compte de sa femme en disant... Ça, c'est assez minable. Quoi. Ouais. Voilà. Ça, c'est ça qui est insupportable. Donc, double faute. Et pourquoi un homme comme ça? Alors, il n'avait pas le temps, peut-être. Il n'a pas voulu frauder, sans doute. Est-ce que c'est l'appât du gain qui lui est venu sur le tard? On ne sait pas. Voilà.
Alors, pour confirmer la thèse de Catherine, qui dit que c'est toujours ceux qui font la morale
toujours
pris la main dans le sac, il y a le précédent de Jérôme Cahuzac, qui luttait contre l'évasion fiscale et qui a été pris lui-même en flagrant délit d'évasion fiscale.
Et en revanche, Bernard Tapie, Orlan Dumas... même Balkany, etc., je n'aimais pas dans le même sens quoi que ce soit, mais eux ne faisaient pas la morale.
Eux ne faisaient pas la morale parce
qu'on peut retourner quasiment la règle.
Exactement.
C'est quelqu'un qui se garde...
Et comme ils sont encore vivants, on va dire, ils ne font pas la morale.
Voilà. Oui. Mais donc, il y a quand même des gens un peu lucides.
Ouais.
D'abord, il faut rappeler que tout ça, ce sont des exceptions et qu'il ne faut pas généraliser.
Ah oui.
Et puis... tous ceux qui ne font pas la morale ne sont pas des corrompus. Il ne faut pas non plus inverser la loi.
Mais ce n'est pas ce que je dis non plus.
Non, non. Mais c'est en aucun cas ce que vous dites. Jamais je me permettrai de vous faire dire des choses aussi insensées, chère Catherine. Et aucun auditeur ne pourrait vous soupçonner de cela. Mais il faudrait que personne ne fasse ce retournement abusif. Alors, maintenant, essayons de revenir sur le mouvement en cours et le conflit entre le pouvoir politique et les syndicats et ceux des salariés qui sont en grève. En essayant, pour lieu de répéter tout ce qui a été dit, et parfois fort bien dit, en essayant de comprendre ce que chaque acteur cherche dans cette histoire, quel est son but? Alors on va commencer par écouter Philippe Martinez et Laurent Berger, et ensuite on s'interrogera.
Notre message, il est écouter l'opinion publique, écouter les grévistes, écouter les manifestants. Vous voulez que la situation s'arrange? Nous, on est tout à fait d'accord. C'est à vous de dire maintenant... On remet les compteurs à zéro, c'est-à-dire on arrête ce projet et on discute vraiment sur l'amélioration du système. Ça peut se régler jeudi.
Ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement, d'ici la fin de la semaine, ne répond pas à nos exigences en retirant l'âge d'équilibre et en rouvrant des discussions sur la pénibilité, par exemple, eh bien, la CFDT se mobilisera de nouveau en janvier.
Philippe Martinez de la CGT, puis Laurent Berger de la CFDT sur Europe 1 mardi. Alors, commençons par Martinez. Il ne se fixe qu'un seul objectif, le retrait du projet.
il est intelligent, enfin, il a beaucoup de formes d'intelligence. Il sait très bien que le projet, je pense qu'il sait très bien que le projet ne sera pas retiré. Je sais bien que dans les grands mouvements, parfois, on se met à s'illusionner. Mais enfin, je pense quand même qu'il a cette lucidité. Alors, pourquoi est-ce qu'il insiste comme ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il cherche dans cette histoire, Yves Tréhard?
Bon, je crois que ça a été dit, d'ailleurs, il est débordé par une partie de sa base. Oui. La CGT n'a absolument pas... De toute manière, Martinez a la réputation, depuis qu'il est... avant même qu'il soit à la tête de la CGT, d'être un très très, très dur. Hein. Oui. C'est un homme qui ne fait pas de concessions. Il est, à mon avis, débordé par une partie de sa base, et j'en veux pour preuve que le patron cheminot de la CGT est un type, est un garçon extrêmement rude et violent, qui est encore plus rude dans le vocabulaire et dans la rhétorique que ne l'est Martinez. Pour moi, Martinez est un grand perdant de cette affaire. Il va faire les frais de cette opération.
Il est pris dans un corner. Et quid de ma thèse sur sa raison d'être? Ce qu'il cherche, c'est que la CFDT finisse par conclure un accord avec le gouvernement et qu'il puisse hurler à la trahison et qu'une partie de la CFDT vienne rejoindre la CGT pour que la CGT redevienne le premier syndicat de France. C'était ça son objectif.
Je ne sais pas, parce que...
Vous dites, c'est ça, c'est encore pire, parce que ça ne se passera pas. Vous dites qu'il va perdre.
Il va perdre. Je pense que le pouvoir actuel essaye de faire sortir par le haut la CFDT, ouais, hébergée avec d'autres syndicats réformistes comme l'UNSA, mais qu'en revanche, la CGT, je pense qu'il voudrait bien lui faire la peau.
Alors attendez, là, c'est très intéressant pour nous d'avoir l'analyse sur ce point précis de Catherine. Je vais vous dire pourquoi, parce que... Bon, Catherine Ney n'a pas une passion cégétiste, mais à la différence de beaucoup de gens, Catherine Ney n'aime pas non plus tellement la CFDT. Et
ah, mais donc... j'ai pas dit que j'aimais la CFDT.
Mais vous voulez que je vous dise quoi, là? Je vous parle de
vous
quoi?
Voulez que vous, je veux que vous me disiez, oui, ce que cherche dans cette affaire Martinez, et est-ce que vous êtes d'accord avec Yves Tréhard pour dire qu'il va être le grand perdant, la CGT? Et je veux que vous me le disiez dans 2 minutes.
Mediapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney, mais avec aussi votre invité du jour, Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro.
Et Justine, en attendant, surtout avec Catherine Ney qui va nous dire ce que cherche Martinez, ce que cherche Berger, et est-ce qu'il, comme nous laissait entendre Yves Tréhard, elle pense que Martinez va être le grand perdant?
Je ne sais pas, en tous les cas, Martinez, il est comme ses prédécesseurs. Bernard Thibault, il disait non à la réforme en 2003. Et il n'y avait pas eu de grève de transport, mais il y avait des grèves perlées. Enfin, ce n'était pas la même chose, mais il disait non à ton, parce qu'il savait que ce n'était pas défendable, cette réforme qui alignait enfin le taux de cotisation du public sur le privé. En 2010, la CGT, sur la réforme, le passage de 60 à 62 ans, la réforme Sarkozy, là, c'était Thibault qui disait niet. D'ailleurs, la CFDT, François Chérec, collait à Thibault, ils n'ont pas voulu négocier. Dans le fond, les Français comprenaient ce qu'on voulait faire. C'est passé après 9 réformes, 9 manifs, semaine, je veux dire, avec 1 200 000 gens dans la rue. Et la CGT s'est vengée en bloquant les raffineries, c'est-à-dire qu'on a manqué d'essence pendant 8 jours, on ne pouvait pas circuler, les trains n'ont pas été touchés. Et c'était les raffineries chez Total, alors que chez Total n'était pas impacté par, ouais, la réforme de 60 à 62, d'accord, ans. Ils ont un régime en or. Là, qu'est-ce que vous voulez? Martinez, il suit sa troupe. Hein. Il était contre. Il était contre une manifestation en octobre, quand ça a commencé à bouger chez lui et tout ça.
Vous êtes sur la thèse d'Yves Tréhard.
Il s'est laissé avoir, mais il a vu aussi l'intérêt qu'il pouvait en tirer, parce qu'il s'était, avec les Gilets jaunes, la CGT n'avait pas existé. Les Gilets jaunes défilaient sans lui, on n'avait pas besoin des syndicats. Tout d'un coup, il a retrouvé une utilité. C'est lui qui a annoncé dès octobre la manif du 5 décembre avec l'idée qu'on ferait 95, que tout serait bloqué, que la CGT serait la reine. Mais il sait très bien que le gouvernement, en demandant purement et simplement le retrait de la réforme, il sait qu'il n'aura pas gain de cause et il sait que les régimes spéciaux vont partir avec, d'ici quelques temps, il n'y en aura plus.
Et
donc, il a perdu.
Est-ce que vous ne pensez pas que, et du coup ça va peut-être permettre de répondre aussi sur Berger,
oui,
est-ce que vous ne pensez pas que l'extraordinaire médiatisation quand même, qui fait de ces personnages présents à tous les journaux télévisés, qui font des unes de JDD, des grandes interviews que tout le monde s'arrache pour les avoir, formidable ce matin, nous on a Laurent Berger à Europe 1, etc., conduit d'une certaine manière à un peu les bloquer
dans leur rôle et dans leurs revendications.
Oui, parce que, en fait, ils sont... Je vais vous dire une chose. Bon, on est journalistes, on ne va pas s'auto-flageller, mais ils sont surmédiatisés. Surmédiatisés par rapport à ce qu'ils représentent. C'est-à-dire que, et l'un et l'autre, je ne parle pas des hommes, hein, les hommes, Laurent Berger a des qualités, Martinez en a sans doute aussi, je le connais moins bien, mais ils sont surmédiatisés par rapport au poids syndical qu'il représente.
Non, attendez, là vous allez commencer à vous contredire. Si vous nous expliquez que c'est la base qui les a entraînés et que maintenant vous dites qu'ils ne représentent pas grand-chose, excusez-moi, mais quand ils représentent 80%, puis 75%, puis encore aujourd'hui, en tout cas, plus de la moitié des conducteurs.
Oui, mais c'est ils sont 8000, les conducteurs à la SNCF.
Je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas 8000. Bah. Je vous dis qu'ils ne représentent pas que les syndiqués. Il y a plein de conducteurs non syndiqués qui sont en grève.
Oui, non, mais attendez, ils ne représentent pas grand-chose, si vous voulez, dans l'opposition à la réforme. Et les conducteurs, à la RATP, à la SNCF par exemple, où on connaît mieux le taux de grévistes qu'à la RATP, parce que c'est une tradition à la RATP, on ne les donne pas, les taux de grévistes. Il y a moins de 10% de grévistes à la SNCF aujourd'hui. Moins de 10%.
En comptant tout, en comptant ceux qui tous sont dans les bureaux.
Oui, mais à partir du moment...
Et sur le PDG,
Oui, enfin le PDG, il fait un. Oui. Sur les conducteurs, vous avez un conducteur sur deux qui se déclare gréviste aujourd'hui. Bah, je suis désolé, c'est pas grand-chose. Ça représente...
Bah, c'est pas grand-chose, mais attendez. Ça veut dire...
Quand il y a une grève des conducteurs, on peut pas dire que c'est ultra-minoritaire.
Non, mais attendez. Olivier, vous oubliez une chose, c'est qu'à la CGT, il n'y a pas que des cheminots. À la CGT, il y a des gaziers.
Vous pouvez dire que ça vous choque. Entre cheminots et RATP, moins de 200 000 personnes arrivent à bloquer l'Île-de-France qui a 8 millions d'habitants. Ça, évidemment, vous pouvez dire ça. Mais vous ne pouvez pas dire que ce sont les syndiqués ne représentent rien quand les salariés en question se mettent en grève.
Mais non, excusez-moi. Parce que je suis en train... faut pas raisonner. Martinez, c'est pas le patron des cheminots.
Non.
Martinez, il est le patron de la CGT. C'est tout métier confondu.
Oui.
Les cheminots, c'est une part de la CGT.
D'accord.
Pas importante, mais c'est une part de la CGT. Ce dont je vous parle, c'est la globalité des adhérents de la CGT ou des votants pour la CGT quand il y a des élections professionnelles qui auront lieu d'ailleurs, et c'est pas anodin, au mois de janvier, puisque vous avez des élections professionnelles au mois de janvier. Eh bien, ça ne représente pas grand-chose par rapport au monde du travail.
Puisqu'on aime les chiffres et que je veux vous faire preuve de ma bonne foi, je vais vous donner un chiffre en votre faveur.
Ouais.
Si vous, chez les conducteurs,
ouais.
Si vous additionnez ceux qui sont syndiqués à la CGT, 32%, 31,9%. À Sud, 32%, 31,8%, juste derrière. AFO, 10,4%. Ça fait 73%. Et si vous ajoutez CFDT cheminots qui appellent toujours à la grève, ça fait 91,5%. Donc 92% des syndiqués et seulement 52%.
Voilà.
Là,
grévistes.
Pour le coup, c'est un argument.
Des grévistes.
Hein, comme je suis honnête avec vous.
Merci, bon. Olivier.
Laurent Berger, Catherine Ney, vous pensez qu'il va sortir comment de cette histoire?
Moi, je trouve que le problème avec la CFDT, c'est que pour lui, le mot équilibre budgétaire, c'est un gros mot. Je veux dire, c'est un intrus dans la discussion. Or, il n'est pas... Je veux dire, même un élève de primaire comprend que maintenant, il y aura de moins en moins d'actifs pour assurer la retraite des gens qui vieillissent de plus en plus. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'il faut travailler plus.
Donc, vous nous expliquez que Laurent Berger n'a pas le niveau de compréhension d'un élève de primaire. C'est assez sévère.
Non, mais moi, ce que je reproche à la CFDT, c'est de, dans réforme, elle dit, c'est obtenir pour les salariés un avantage acquis en plus, sans se soucier de la situation économique de la France, de la situation des entreprises. Bon, la CFDT, c'est les 35 heures. Moi, je dirais que tout le monde est très content. Bien sûr, on travaille moins, mais ça a tué ce qu'il y avait d'industrie en France. Et on se demande pourquoi il n'y a plus d'industrie. J'ai toujours été contre.
Le sujet d'aujourd'hui n'est pas les 35 heures.
La pénibilité,
CFDT, c'est un gros mot pour vous, donc.
Comment ?
CGT, CFDT, c'est des gros mots pour vous.
Mais pas du tout, des gros mots. Il faut regarder qui ils sont, c'est tout. Moi, je regarde les choses et, bon, permettez-moi de me choquer.
Ah non,
je veux dire, la loi pénibilité, bien sûr qu'il y a des métiers pénibles. Mais je me souviens, quand on discutait de la loi durant le quinquennat de François Hollande, mais on voulait pousser... Vraiment, jusqu'à demander aux artisans, par exemple, un patron d'un truc de peinture, il fallait que tous les soirs, il note combien de fois le peintre avait levé le bras dans la journée, était monté dans l'échelle. C'était caricatural.
Oui, mais prendre en compte la pénibilité et éventuellement rétablir les motifs qu'on a
Non, mais
supprimer,
je veux dire, c'est trop...
comme la suppression des gens qui sont en contact avec agents chimiques, pour ne prendre qu'un exemple, c'est tellement pas absurde que même le Premier ministre l'envisage.
Mais ça, je voudrais dire quelque chose,
parce que je pense que les syndicats, comme je vous l'ai dit, vont perdre la partie. Néanmoins, sur le papier, il n'y a pas d'accord qui va être signé, parce qu'il ne s'agit pas de signer un accord, là, il s'agit de faire une réforme. Néanmoins, ils auront obtenu d'importantes contreparties. Il ne faut quand même pas l'oublier.
D'accord.
Leur combat n'a pas été vain, puisque et la CFDT, et d'une certaine façon, la CGT, même si elle est complètement hostile à la réforme, ils ont obtenu des contreparties qui améliorent considérablement sur la pénibilité, sur les transitions, qui sont très longues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une réforme qui va s'achever dans les années 2040.
Yves Tréhard vient de rendre hommage à l'efficacité du mouvement syndical.
Oui, il y a quand même des contreparties.
Du mouvement social, ce qui vous prouve que on entend certains points de vue, mais parfois l'autre aussi dans cette émission, et parfois les deux points de vue contraires du même interlocuteur, Yves Tréhard, parce que c'est un homme honnête, donc tiraillé. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il outre-Atlantique? Vous en avez une idée, mais franchement, ça mérite qu'on s'y arrête dans deux minutes.
L'éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréhard, et votre invité, Olivier Duhamel et Catherine Ney, pour Mediapolis ce samedi.
Comme vous le savez, il s'est passé un événement assez considérable aux États-Unis d'Amérique, puisque est voté l'impeachment, l'ouverture d'un procès pour destitution par la Chambre des représentants. Ça ne s'est passé que deux fois, enfin en vérité trois, ça s'est passé juridiquement deux fois. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, dans les années 1860, contre Andrew Johnson, et il a échappé à la destitution à une voix. Et ensuite, pour Bill Clinton, et il n'a pas été destitué. Et puis, en 1974, Nixon a anticipé et a démissionné de lui-même parce qu'il savait qu'il serait destitué. Et donc, Alice Baudry, directrice de la stratégie et du développement à l'Institut Montaigne qui surveille les médias internationaux pour nous, a trouvé sur le sujet quelque chose d'intéressant d'un nouveau média qui s'appelle No Hear News, savoir ici, là, to know here news, je ne prononce pas très bien, qui utilise les techniques de l'intelligence artificielle pour agréger les informations et tenter de les retranscrire de la façon la plus impartiale possible. Ce que la presse américaine, du coup, ils ont fait le travail sur ce que la presse américaine est en train de dire au sujet de l'impeachment. Hein ? Donc vous avez compris, un nouveau média, IA, et je fabrique une nouvelle information par mixte des informations des différents news. L'actualité a été particulièrement brûlante cette semaine, puisque, comme vous le savez, deux articles pour la destitution contre le président américain ont été adoptés par la Chambre mercredi soir. Ce que nous disent en agrégé les contenus d'inspiration de droite. Tous les 197 représentants républicains sans exception et 5 des 235 représentants démocrates ont voté contre la destitution. Le stratège républicain Joe Watkins a commenté de façon visible. Je pense qu'en fin de compte, cela ne va probablement pas nuire au président et le renforcera même dans sa candidature pour être réélu. Vu de gauche, côté démocrate en condensé, Trump devient le troisième président empêché de l'histoire. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu'elle ne choisirait pas de responsable de la destitution pour procès au Sénat tant qu'elle ne serait pas convaincue que le procès du Sénat serait équitable. Je trouve ça très très amusant et intéressant d'avoir un média qui, avec des algorithmes, nous résume les points de vue opposés de journaux. Et donc, merci Alice Baudry de nous avoir trouvé ça. Au-delà de cela, c'est difficile de dire, comme je dis souvent, que je ne dois pas poser de questions de prévision politique et puis juste derrière de vous demander si vous pensez que ça va profiter à Trump ou pas. Comment est-ce que vous expliquez que finalement, dans les médias, on est accordé relativement aussi peu de place à un événement quand même qu'on pourrait qualifier d'historique?
Dans les médias français?
Oui.
Bah, je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est qu'on nous dit que Trump est très populaire quand même dans une grande partie de la population. Et donc cet événement, qui vous avez raison, vous l'avez souligné, est un événement énorme.
Oui.
L'avenir politique d'un homme est en jeu et du président américain, c'est quand même terrible. Mais on nous a tellement répété que, de toute manière, il n'y avait aucune issue à cette histoire et qu'il ne risquait pas d'être enfin qui ne risque pas de quitter la Maison Blanche,
forcé à démissionner quoi,
forcé à démissionner, ni que c'est, ça pouvait mettre à mal sa réélection, parce qu'il a l'air d'être quand même sérieusement le favori. À partir de là, les médias français se sont assez peu intéressés à la chose. Et puis il y a une deuxième chose, je crois.
Je me permets juste sur un petit point de la première de vous contredire. Il n'est pas, oui, il a gardé sa base électorale et même il l'a un petit peu renforcé, sa base partisane.
Partisane.
Mais non, il n'est aujourd'hui, il n'est pas donné favori. Aujourd'hui,
oui,
c'est Joe Biden qui est donné favori.
Mais
ça ne veut pas dire grand-chose, ça peut changer.
Ça peut changer.
C'est un vote par État, électeur à la fin de l'histoire.
Je crois qu'il y a une deuxième chose. Alors, je ne sais pas si c'est les journalistes qu'il faut mettre en cause, parce que ça serait leur faire un mauvais procès. Mais c'est tellement compliqué, cette procédure. Parce que, certes, c'est la Chambre des représentants, mais après, ça part au Sénat, où on sait qu'au Sénat, il y a une majorité républicaine et qu'il ne risque rien. C'est assez compliqué à expliquer à nos auditeurs, aux lecteurs. Et donc voilà.
C'est moins compliqué que la réforme des retraites.
Et puis je crois une deuxième chose, c'est qu'on n'a pas un amour immodéré pour Donald Trump en France, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui.
Et donc.
Ça pourrait au contraire nous conduire.
Oui, mais justement, on ne veut pas lui faire de cadeau. Peut-être.
Et en parler, ce serait lui faire un cadeau.
Peut-être, parce qu'on sait qu'il est indéboulonnable.
Oui, et puis, qu'est-ce que vous voulez, il y a quelque chose qui fait qu'on a une forme de rejet. Bon, il est allé dans le Michigan faire une réunion auprès de ses partisans, évidemment, qui l'adulent, qui l'adorent et tout ça. Mais la façon dont il se défend et accuse ses détracteurs, on comprend qu'il soit très en colère en les traitant de vicieux. Mais ce qu'il dit est tellement ordurieux. Il dit « Les démocrates de Nancy Pelosi, la dingue, porte une marque de honte éternelle. Il s'est attaqué à d'autres adversaires, dont le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, état de l'élu de New York. Il dit, je le cite, hein, il avait l'habitude de me lécher le cul, je dis. Il dit ça à la tribune, donc je cite. Il était prêt à tout pour faire pour moi. Cherchez donc combien d'argent je lui ai donné en tout pour ses campagnes. Vous voyez, et voilà, il faudrait que Chuck rende tout ça. Donc, il est capable de tout, de dire, et ça, évidemment, sous les vivas d'un électorat qu'il adore, et plus il est vulgaire, plus ils applaudissent.
Ça, c'est très important ce que vous dites, Catherine. En préparant l'émission, il se trouve que j'avais sélectionné exactement les mêmes textes que vous, et je les aurais lus si vous ne l'aviez pas fait. Il faut quand même s'y arrêter un instant. C'est quelque chose qui paraissait inimaginable. Qui est inimaginable chez nous? Est-ce que vous imaginez le président de la République dire ce cinglé de Gérard Larcher? Ou est-ce que vous l'imaginez ce Christian Jacob auquel j'ai filé, qui est venu me lécher le cul? Non, mais c'est invraisemblable.
Ouais.
Et là, ça se produit, et deux, comme vous dites, j'ai quand même du mal à croire complètement, et c'est à la fin de l'histoire, c'est l'élection qui tranchera. Mais vous dites que ça ne déplaît pas. Vous avez raison, et peut-être même au contraire.
Ça les excite encore plus.
Ça les excite encore plus, et c'est pour ça que, personnellement, on a une forme de rejet. Et moi, plus ça va, plus il est populaire auprès des siens, plus moi, je suis réticente, alors, ce qui n'a aucune importance, d'ailleurs. Mais voilà, donc on n'a pas envie d'en parler, parce qu'on ressent une forme de honte et de dégoût.
J'en profite pour rebondir sur ce que vient de dire Catherine, ça me paraît important, ça, parce qu'on est souvent qualifié, nous autres journalistes, de politiquement correct. Trump, on ne l'aime pas parce que c'est Trump. Et tout. Mais on est aussi là, on n'est pas obligé de suivre la grossièreté, l'inélégance. Je pense que ça ne grandit pas l'exercice politique.
Et ça ne grandit pas le pays, l'Amérique. C'est
exactement
terrible pour le pays.
On n'est pas obligé de suivre la grossièreté, l'inélégance. Et ça ne grandit pas le pays et ça vaut pour l'Amérique.
Comme pour,
comme pour les autres. Ce sont les mots de la fin. Alors, je vais vous dire, il faut m'excuser parce qu'on doit encore faire une petite pause parce que, qu'est-ce que vous voulez, l'émission marche très bien, donc on a des pauses à faire. Et pour me faire pardonner, derrière, vous allez avoir les extraits de deux chansons. Alors, ne les ratez pas. À tout de suite.
Vous retrouvez Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis. Et ce matin, ils sont accompagnés par l'éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréhard.
Et il faut dire, pardon Laurent Mariotte, mais vous n'aurez pas l'émission parce qu'ils veulent continuer. Non, je plaisante. Mais ils veulent quand même nous dire chacun, juste d'un mot, quel est l'homme ou la femme de l'année, Yves Tréhard?
Boris Johnson, le Premier ministre britannique.
Et vous, Catherine Ney?
Le Premier ministre français, Édouard Philippe.
Vive les Premiers ministres et vive les hommes. Alors donc, maintenant, on vous a préparé deux chansons. On a préparé un extrait d'une première chanson, un bref extrait, vous la connaissez bien, chanté par Jeanne Moreau. J'ai la mémoire qui flanche, qui est évidemment en hommage à Yves Delevoye et en écho à Colaro. Ah.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien comme il était très musicien. il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin.
Chanson écrite par l'auteur-compositeur-interprète Serge Rezvani, qui avait également écrit « Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours » dans « Pierrot le fou », hommage à Anna Karina qui nous a quittés. Et alors une deuxième chanson, une seconde chanson, un extrait d'une chanson d'Alain Barrière, en duo avec Noël Cordier, « Tu t'en vas », qui était le tube de l'année 1974, et qui est une chanson sur un départ inattendu, donc c'est à la fois en hommage à Alain Barrière, et toujours de le voir.
Tu t'en vas.
Mais dans mon cœur, ce n'est rien que quelques semaines à s'attendre.
Tu t'en vas.
Mes joies, mes rêves sont pour toi impossibles de t'y méprendre. Notre amour nous appartient, nul ne saurait nous le reprendre.
Tu t'en vas.
L'éloignement aide parfois à mieux s'aimer, mieux se comprendre.
Tu t'en vas comme un soleil qui disparaît, comme un été. J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide et de l'absence. Tu t'en vas et les oiseaux ne chantent plus, le monde n'est qu'indifférence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi, j'ai peur que bien.
Catherine, vous étiez à peine postado, vous dansiez sur quoi?
Mais sur ces slow là, et ça c'est le. Ah ben ça, j'ai oublié. Dans tous les cas. Mais en tous les cas, c'était une danse que tout le monde savait faire. Voilà.
Ah ouais. Hein, très bien. Merci à tous. Merci à Yves Tréhard.
Merci à vous.
Vous pouvez faire écouter l'émission. Vous devez la recommander en podcast sur Europe 1.fr.